guide naturaliste Jean-Marie Houari est l'un des fondateurs de l'association Mille Traces.
Tout à fait.
Qui protège et étudie l'ensemble de la biodiversité, en particulier dans le massif du Vercors. C'est l'un des spécialistes français du retour naturel du loup en France. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour.
Merci de nous recevoir juste après votre intervention à l'école de Poët-Laval. Une intervention qui a duré toute la journée. Vous en avez fait plusieurs, je crois.
On a fait, oui, une classe le matin, une classe l'après-midi, en allant faire l'école de la forêt.
C'est quoi l'école de la forêt ?
Bah, c'est aller passer un moment, quelle que soit la météo, à partir du moment où on peut résister, quelle que soit la météo, de faire une animation nature avec ce qu'il y a tout autour de nous dans la forêt. Alors que ça peut être les oiseaux, les traces. Là, on a fait un affût pour observer la nature, puisque depuis plusieurs séances, on a observé la présence des animaux. Alors, pas forcément visuel, mais les traces, les indices, et on a mis des pièges photos, et on a relevé des empreintes, et on a écouté les oiseaux, on les a provoqués. Donc voilà, c'est une suite de faire un petit cours dans la forêt avec ce qu'il y a autour de nous, sans trop rien préparer.
Jean-Marie, votre association sensibilise le public, les enfants, mais pas que, notamment à travers des randonnées nature et découvertes de la biodiversité. Quand est-ce que vous l'avez créé ou co-créé, et dans quel but ?
Alors, on l'a co-créé, hein, c'est association, comme le nom l'indique, c'est souvent la réunion de gens. Et donc, quand on a voulu militer dans certaines grosses associations, on n'y a pas trouvé notre compte à pouvoir être acteur sur le terrain, vraiment. Mmh. Donc, on a créé une Xème association en 1992. Et puis, on a décidé de se lancer, alors qu'on venait d'horizons tous différents. Moi, je venais de l'éducation populaire. Mmh. Voilà. Et donc, on a lancé une Xème association dite de protection de la nature. Mais après, pour être autonome, il faut trouver des moyens financiers de pouvoir agir. Donc, on s'est lancé dans l'éducation à l'environnement. Voilà.
D'accord. Comme moyen d'action, en quoi c'est important de sensibiliser en permanence les populations autour de la biodiversité et, dans votre cas aussi, plus spécifiquement autour de la présence du loup ?
L'éducation à l'environnement, c'est surtout démystifier beaucoup de choses. Avant d'attaquer sur le loup, dire simplement qu'il y a ces phrases toutes faites qui sont relayées après qu'une grand-mère nous ait dit que le chat noir porte malheur, les chauves-souris s'accrochent dans les cheveux, la vipère tête les vaches. Eh bien ça, comme c'est pas du tout scientifique, vraiment pas du tout, il faut bien qu'il y ait des gens qui prennent le temps, qui fassent l'effort d'informer les gens à tour de bras, j'ose dire, que ce soit une conférence, que ce soit sur les ondes, que ce soit dans les écoles, qu'on fasse passer, on vulgarise notre savoir scientifique.
Ces dictons, justement, populaires, c'est un peu les ennemis, non, de l'éducation à l'environnement, ou alors, au contraire, ce sont aussi des savoirs qu'on doit transmettre ?
Faut quand même pas tout jeter à la poubelle. C'est qu'il y a des dictons qui sont vérifiés et qui sont intéressants. Mais il faut les disséquer, puis il faut les remettre dans leur contexte. Après, il y en a, c'est complètement des idées farfelues. Farfelues, voilà.
Justement, on va parler du loup. Quel regard, alors je ne sais pas si vous avez parlé du loup avec les enfants de Poët-Laval, mais j'aimerais savoir quel regard portent les enfants sur le loup et sur les animaux en général. En tout cas, la première fois que vous intervenez, quand ils n'ont pas encore rencontré de naturaliste dans leur vie.
Eh bien, moi j'ai 30 ans de guidage naturaliste maintenant, hein. J'ai 29 ans de suivi loup en France, hein, avec son retour naturel. J'ai constaté une évolution monstrueuse entre le début en 1994, quand on commence à nous demander d'intervenir dans des écoles, dans des fêtes, dans des salons, et où on voit que les gens en sont encore à la chef de M. Seguin et le chaperon rouge. Hein ? Alors tout de suite, on a opposé à ça, ou on a mis en face de ça, en miroir, les loups de Rémus et Romulus, pour faire voir que les légendes, c'est des légendes, c'est des contes, mais c'est pas la réalité. Et donc, on a vu une évolution énorme où l'opinion publique, les médias y compris, ont commencé un peu démystifier toutes ces histoires qui faisaient peut-être manger la soupe, qui faisaient avoir peur de la forêt, mais qui n'étaient pas la réalité. Et comme on a vulgarisé énormément et que de plus en plus de gens se sont intéressés à la faune sauvage et y ont donné des vrais noms, parce qu'on pourrait parler du lynx, qu'on appelle ça le loup cervier, qu'on a raconté que moi, en 94, quand je vais à Saint-Martin-de-Vésubie dans le Mercantour, les gens dans le bar en face de la maison du parc, alors qu'on a déjà des parcs, puisque la protection de la nature, c'est les années 70. Mmh. Et donc, dans le bar en face de la maison du parc, en 94, il y a des gens qui osent dire et affirmer, alors qu'on n'est plus au Moyen-Âge, qu'un loup fait 250 kilos. Donc, quand on a des images comme ça et des accrochées à des légendes, bah oui, ça entretient la peur. Sauf que les gens sont accaparés tout ça et l'ont vraiment simplifié et puis ont été vraiment sur le terrain l'observer. Et donc, on a démystifié complètement. Et là, actuellement, je fais tout ce petit discours pour dire, il y a 30 ans, les gens, c'était le chapeau rouge. On repartait avec ça. Maintenant, il y a plein de contes positifs sur le loup qui restent des contes. Ce n'est pas la réalité non plus, qui restent positifs. Mais qui maintenant, tout le monde s'est accaparé un peu d'aller piocher sur le net ou dans une bibliothèque, une médiathèque, des informations. Ils ont vu les loups en parc, ou ils ont vu que les 250 kilos, ils n'y étaient pas. Hein. Et donc, ça, maintenant, ça a énormément avancé dans le grand public. D'ailleurs, 70% de la population française est favorable à la présence, on disait le retour à une époque, mais à la présence du loup en France.
Et ils ont moins peur, les enfants, maintenant ?
Mais les enfants, ils n'ont pas de raison d'avoir peur. Avec le nombre de dessins animés agressifs qu'il y a depuis une dizaine d'années, avec les monstres, les Transformers, même les films d'épouvante, que malheureusement, beaucoup d'enfants sont en train de visionner, alors qu'avant, c'était quasiment interdit. Enfin, l'éducation ne permettait pas qu'on voit ça. Enfin, je m'arrêterai là, mais sur l'accès à l'image par les enfants, par l'enfance, c'est assez dramatique. Donc, non, le loup leur fait pas peur. Mmh. Il n'y a pas de raison d'avoir peur, d'ailleurs, parce que pour le peu de fois que j'ai réussi à faire croiser le loup avec des adultes, des enfants, des groupes, des familles, ils ont bien vu que c'était le loup, c'est un pétochard.
C'est ça. Vous l'avez observé, appris à le connaître certainement plus que quiconque. Comment vous le décririez, le loup, à quelqu'un qui ne le connaît pas, dans son milieu naturel, bien sûr, plus dans les fables
Alors,
et les contes
en quelques secondes, je vais... De vulgariser la chose, de dire qu'est-ce que c'est que le loup. Mais le loup, c'est une espèce de mammifère qui a une vie sociale énorme, qui vit en meute, qui vit sur tous les continents quasiment. Toi. Donc c'est assez impressionnant et c'est assez bluffant de l'étudier, de le suivre et de découvrir cette espèce. Je dirais que simplement, c'est un super prédateur, c'est vrai. C'est un mangeur de viande, mais pas que. Mais c'est un opportuniste. Et donc c'est un opportuniste, c'est-à-dire que lui, il va aller au plus simple. Et donc de la viande, il en existe sous toutes sortes de formes dans la nature. Mais en plus, dans notre vie moderne maintenant, dans la nature, il en existe de la viande qui a été déposée, laissée par des gens et qui, comme il est charognard, opportuniste, eh bien il va se suffire avec des choses comme ça.
Il en profite.
On l'a vu à des endroits, être derrière une pisciculture et se nourrir que de poissons morts que les gens jetaient. Mmh. Donc c'est vraiment l'animal un peu au quotidien qui aimerait bien vivre autour des villages, manger les souris et les rats qu'il y a autour de nos poubelles. C'est un opportuniste et il a appris depuis la préhistoire à avoir peur de l'homme. Parce que l'homme a utilisé le loup, pas dans un premier temps pour chasser, mais il l'a chassé, il l'a poursuivi avec un bâton pour lui piquer les compétences qu'il avait à attraper en meute une proie, de la viande, et l'homme préhistorique lui a tapé sur la tronche pour lui piquer sa carcasse. Voilà. Mmh. Et depuis ce temps-là, le loup a peur de l'homme. Mais vraiment une peur, c'est bien, là le dicton sonne bien, enfin la phrase sonne bien, c'est une peur ancestrale. Voilà. Et toutes les visuels que j'ai en France de loups sauvages, on ne va pas parler de la captivité, hein, ça n'a plus rien à voir. Et de loup sauvage, c'est un loup qui met la queue entre les jambes, qui rabat les oreilles et qui fuit en étant curieux, puisque quand même c'est un mammifère évolué, hein, on n'est pas devant une souris ou un campagnol là. Et donc il se retourne, mais il est très très pétochard. Moi c'est le mot qui le qualifie maintenant, c'est ça, pétochard.
C'est ça, craintif, pétochard, et il risque en plus de se faire descendre dans nos contrées. Et pourtant, il survit et semble même se développer. Comment c'est possible ?
Bah, c'est possible, c'est un mammifère évolué hein, qui vit en meute donc, et que son régime alimentaire va de l'escargot au cerf chez nous. Hein. Après, il y a sur d'autres continents. C'est un animal qui fait entre 19 kilos et 40 kilos, qui vit en meute. Donc le cerf de 200 kilos, ils peuvent l'attraper facilement. C'est un animal qui est assez doué, il est en haut de la pyramide alimentaire, mais ce n'est pas pour ça que c'est une bête fauve dont il faut avoir peur. Partout les pays où on a développé la tradition de garder les troupeaux ovins, de moutons, on a développé un loup domestique, c'est-à-dire les chiens, hein, des gros chiens molossoïdes depuis longtemps, que ce soit au Portugal et tout ça. Et quand vous êtes avec des gens en Italie encore, où je fais beaucoup de séjours, les gens vous disent, le loup, oui, ça peut être un problème, mais on sait faire avec, de toute manière. On jette une pierre à trois loups qui sont à 400 mètres du troupeau. S'il y a la présence des chiens molossoïdes, ils vont peut-être revenir. Mais si, en plus, il y a assez de nourriture dans la forêt, la nourriture sauvage, eh bien, il va se contenter d'être le plus loin possible de l'homme. Après, il faut qu'on revoie aussi notre manière de vivre le vivant, de vivre le sauvage. Si à des endroits, le loup circule et qu'il n'y a plus du tout de bête sauvage, bah forcément, il va se rabattre sur le cheptel domestique, qui est plus facile à attraper parce que moins performant, mais qui est quand même gardé normalement. Hein. Et s'il est gardé, il y a présence et odeur de l'homme, présence et odeur de chien. Donc le loup, c'est pas si facile que ça normalement.
Comment vous expliquez que, vous parliez de l'Italie, ça fonctionne plus facilement là-bas et qu'en France, on y arrive très difficilement?
On reprend ce que j'ai dit au début, nous, Chaperons Rouges, eux, Rémus et Romulus. Voilà, la louve de Rome, qui n'était pas une louve, hein, c'est une légende encore, je répète, mais la culture, c'est important, hein, où arrive une espèce animale. La culture de l'endroit où elle est, est importante. La technologie qui est autour des élevages, comment on garde, comment socialement on paye les gens. Certains bergers sont mal payés en Italie, beaucoup plus mal que chez nous. Mais ils savent faire. Et puis après, ils ont une autre tradition, c'est qu'ils ont beaucoup plus de troupeaux laitiers. Et qu'on le rentre tous les soirs. Mmh. On les rentre tous les soirs. Donc, chez nous, c'est qu'on veut tout maîtriser. Et que, surtout, en plus, on a tendance à utiliser le loup comme un bouc émissaire. Je rappellerai qu'on a, on a peut-être 1000 loups en France. Voilà. Il y a 9 millions de chiens domestiques. Donc on le voit tous les jours maintenant, la presse, qu'elle soit écrite ou audiovisuelle ou radio, relate bien, alors que pendant 20 ans on les avait un peu oubliés parce que ça vendait de l'image ou de l'émission ou du son, on vendait beaucoup les attaques dites de loups. Mais on a passé beaucoup d'attaques de chiens sur le... Et là, maintenant, on voit que les médias nous renvoient toutes ces attaques de chiens sur être humain. Alors que pour l'instant, on n'a aucune attaque de loup sur être humain. Et le loup ne pourra attaquer l'homme, braver sa peur, que quand il est malade, enragé. Enfin, moi, j'ai couru derrière lui deux, trois fois pour justement à la demande de journalistes qui m'ont dit « Oui, mais on raconte que le loup... » Et je lui ai couru dessus. La première chose qu'il fait, il met la queue entre les jambes comme s'il était dominé et il rabat les oreilles et il fuit le plus loin possible.
Voilà. Et est-ce que vous arrivez quand même à l'observer dans le Vercors? Et si oui, de quelle façon?
Le meilleur moyen de l'observer, c'est ça ne va pas être très écolo, hein, c'est de rouler avec sa voiture parce que sa voiture, avec l'échappement qu'elle fait ou la cage étanche qu'est une voiture, empêche l'odeur de sortir, et avant tout, c'est l'odeur qui fait craindre au loup d'être là, à un endroit où il y a une odeur forte. Hein. On est capable de chasser les taupes dans un terrain de golf avec des excréments de tigre, alors que la taupe ne connaît pas le tigre. Mais quand il y a des odeurs fortes, ça fait partie du naturel, ça a une odeur forte. Un chien qui veut s'affirmer va se rouler dans une crotte. Les odeurs sont très importantes dans le monde de l'animal. Et donc, c'est ancré dans la tête de ces canidés sauvages. Un peu moins pour le renard, qui est beaucoup plus doué, là. Là, je ne l'appellerai pas, lui,
le pétochard.
Le pétochard. Hein, il est plus doué. Mais ce n'est pas pour ça qu'il va nous attaquer. Moi, j'ai plus à craindre, quand je suis en sortie nature, d'un sanglier ou d'un cerf en période de brame. Voilà.
Est-ce que vous pourriez nous rappeler le rôle du loup en termes de prédation et de régulation des espèces traditionnellement chassées par l'homme?
Voilà. Bah, le loup, alors, en Europe occidentale, on va juste faire un dessin de où est le loup sur la planète. Le loup, il est au Moyen-Orient, il fait 15 kilos, il chasse des gazelles et des lièvres de désert, et voilà, ils sont en meute de 5. En Europe occidentale, ou en Europe, c'est des meutes de 8, 10, et là, on va chasser la plus grosse proie qu'on peut attraper, c'est le cerf, 200 kilos. Après, on va au Canada, Amérique du Nord, là, les loups sont 25 en meute, et chassent du bison de 1 tonne. Et après, le loup arctique, qui est le plus grand, qui fait 70 kilos, ce loup-là, lui, chasse du bœuf musqué. Et ils sont que 5, 6, 8 dans la meute. Voilà, à quoi sert cet animal ? C'est de réguler. Et quand on est opportuniste feignant et qu'on veut manger de la viande et qu'on est un carnivore canidé, eh bien, on va chasser le plus facile. Mmh. Donc, à quoi sert vraiment, au fond, le prédateur ? Le prédateur, enfin, sert à une seule chose, qu'il soit l'aigle, qu'il soit le carabe qui tue les vers de terre ou des choses comme ça, ou les cloportes, c'est l'animal est là pour réguler une espèce. Mais cette espèce qu'il régule, la plupart du temps, elle se reproduit 10 ou 20 fois plus que lui. Donc lui, il est là pour jouer, comme disent les Inuits, les Esquimaux, il est là pour jouer le rôle de vétérinaire. Mmh. C'est-à-dire qu'il va choper les animaux de cette espèce, le cerf, on va parler pour le loup d'Europe occidentale, le cerf, qui est un animal qui se reproduit plus vite, chaque femelle va avoir des petits, alors que le loup, c'est une femelle dans une meute de 8 sur un territoire de 200 km². Mais sur ces 200 km², le loup va manger des campagnols qui sont en millions, des perdrix s'il y en a, du chevreuil dans la forêt, du cerf, du chamois s'il y en a, mais il va réguler par le fait d'aller au plus simple. Et le plus simple pour lui, ça va être les boiteux, les dégénérés, les vieillissants. Mmh. Ça empêche la prédation ou la superprédation, empêche la surpopulation et la dégénérescence de l'espèce. C'est-à-dire qu'un loup n'ira jamais sur un beau cerf. Alors qu'au contraire, si on se triture un peu les ménages, on va voir que le monde de la chasse tue les beaux cerfs, donc les beaux trophées. Sauf que ça, c'est les bons reproducteurs. Alors que le loup n'ira jamais sur un beau reproducteur, ou alors pas tout de suite. Hein. Il ira d'abord sur tous les animaux qui sont vieillissants, malades, dégénérés, les mauvais reproducteurs. Donc en fin de compte, ça c'est une étude des Italiens, puisque nous ne sommes pas encore ultra performants sur le loup, on avait perdu la connaissance du loup. Les Italiens, les Américains, David Metch et Luigi Boitani en Italie, nous ont donné des études de comment le loup arrive sur un territoire où il n'y a plus de présence de super prédateurs. Eh bien il arrive, il va réguler les animaux malades dégénérés, il va empêcher les femelles d'être s'accoupler avec des mâles qui sont plus ou moins stériles ou pas tellement féconds, et donc le taux de reproduction, c'est des chiffres, c'est pas tellement beau, mais c'est ça la réalité scientifique. Quand le loup n'est pas là, il y a un taux de reproduction de 0,8 par femelle sur le chevreuil, puisque c'est vraiment l'espèce forestière, ça, le chevreuil. Et quand le loup arrive, hein, il va tuer tous les animaux qui sont dégénérés, malades, vieillissants, je répète à chaque fois, hein, et là, il va laisser que des animaux qui vont reproduire à un taux de 1,2. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le loup crée une dynamique de population. Jamais il ne détruira les espèces qu'il y a en dessous de loup. Sans ça, il s'auto-détruit. Donc c'est vraiment un régulateur, un vétérinaire pour mettre à l'équilibre. C'est un savant équilibre. Il y a un bel exemple à suivre, c'est l'île Royale, au nord des États-Unis. C'est un lac d'eau douce qui a été gelé par 2-3 fois dans les 40 années qui sont passées. Les scientifiques ont suivi l'évolution. Sur cette île de l'île Royale, ça a été gelé et donc les élans, 600, 800 kilos, sont passés. Et puis pendant une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années, je ne me rappelle pas tout à fait du nombre d'années, et ils ont commencé à brouter, à broutir, ça s'appelle, la forêt. Et puis comme ils se sont reproduits et qu'il n'y avait pas de prédateurs, de super prédateurs, ils ont dégénéré. Ils ont dégénéré, mais ils ont continué à abroutir la forêt. Ils l'ont esquinté complètement. Jusqu'au jour, chance, hein, les loups sont passés sur la glace. Il y a eu un regel de ce lac. Les loups ont tapé les élans, donc ils ont enlevé du broutard. Ils ont laissé des élans qui pouvaient se reproduire, effectivement, mais les élans ont été régulés, et ça fait comme une onde, hein, ça se suit. Les loups augmentent parce qu'il y a plus d'élans. Quand ils sont beaucoup, les loups, ils bouffent plus d'élans. Les élans tombent, donc les loups tombent aussi, mais surtout la forêt revient à l'équilibre.
Savez-vous combien il y a de meutes actuellement dans le massif du Vercors ? Comment elles sont regardées ?
Alors faut parler avec le relief, la géographie. Vraiment, les plateaux du Vercors, que ce soit, on prend Villars, la Chapelle en Vercors, et puis la grande forêt de Lente où il y a eu les maquisards, là on a 6 meutes de loups. Mais des meutes, ça ne veut pas dire qu'on a 10 loups dans chaque meute. Une meute, ça commence à 2 individus. 2 reproducteurs, c'est une meute. Donc, et malheureusement, avec les tirs, il y a des meutes qui sont en mauvais état, je ne vais pas dire de santé, mais...
D'organisation sociale.
Exactement. C'est-à-dire que ça ne ressemble plus vraiment à des meutes de loups, puisqu'à un moment, on les a déstabilisés. Quand tu as dans une meute 2 individus, leaders, reproducteurs, qui sont souvent les meilleurs chasseurs, mais qui dirigent la meute et qui empêchent l'autre femelle d'avoir des petits. Parce que sur une meute, sur 200 km², on ne peut n'avoir qu'une reproduction par an. Qu'une reproduction. Alors au passage, je donne une information, c'est que nous avons domestiqué le loup, parce que tous les chiens que nous avons à la maison, c'est du loup, domestiqué à la fin de la préhistoire. Donc ces chiens-là font 2 portées. Donc c'est que la domestication aussi transforme les choses. Le sauvage règle le problème d'un super prédateur en mettant une reproduction très basse, très basse, une fois par année. Ça va être sur un territoire de 200 km², ça va être 4 louveteaux maximum. Voilà. Et les meutes sont déstabilisées par le fait qu'on les tire. Parce que vu qu'on a une faible connaissance du loup en général, ça s'améliore, mais... sur le terrain, on voit un loup, on le dégomme, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc, on a un bel exemple. Il y avait quelqu'un qui se plaignait que les loups tuaient ses chamois. Donc, vous voyez déjà dire c'est mes chamois. Ce n'était pas sur le Vercors, c'était dans un autre département rhône-alpin. Et il s'est permis de tuer un loup. Il a été accusé par l'ONCFS à l'époque. Mais la meute était déstabilisée parce que le tir qu'il avait fait, c'était sur le mâle dominant. Donc le leader de la meute. Donc quand tu perds une pièce maîtresse d'une famille, donc là, il va y avoir une réorganisation, mais pas tout de suite. Et donc quand on parle du super prédateur ou du meilleur chasseur de la meute, donc ça va être compliqué de trouver à manger. Donc on se retourne vers quoi ? On se retourne vers ce qu'il y a plus facile. Donc le cheptel domestique. Donc ce qui s'est passé, c'est que cette meute-là, où il y avait encore la femelle dominante qui a pris un jeune mâle sûrement pour devenir leader, eh bien, pendant un an, ils ont flotté. Donc il y a eu des attaques sur cheptel domestique. On a réclamé un tir, enfin, c'est pas moi, a été réclamé un tir. Non, on a tiré un individu dans cette meute. Enfin, encore, vraiment manque de peau, on a tiré la femelle dominante. Donc là, on s'est retrouvé comme dans une maison, si d'un seul coup, il n'y avait pas de papa, pas de maman dans la maison. Donc, et avec 2 adolescents. Donc ça a été n'importe quoi. Donc le tir n'est surtout pas une solution tant qu'on ne sera pas capable de cibler ce qu'on tire. Si on doit tirer, parce que des loups aberrants, moi il y a 25 ans j'avais dit ok pour pouvoir tirer des loups quand ils s'accrochent sur un troupeau. Mais c'est pas le cas. Là il y a des mensonges tous les jours qui sont faits pour que quelqu'un se fasse une gloriole d'avoir dégommé un loup.
Pour finir, quels sont les conseils qu'on peut donner aux futurs randonneurs et randonneuses de la saison là, qui commence pour ne pas trop interférer avec la faune sauvage, pas faire n'importe quoi. Il y a quand même de plus en plus de gens dans les montagnes. Est-ce que vous, avec l'association Mille Traces, vous avez des recommandations à faire aux gens ?
J'en ai plein parce que c'est selon les saisons. Toi, tu sors sur le Vercors au mois d'avril, il va y avoir la sortie des vipères, des mâles de vipères qui se réveillent sur le chemin de randonnée et qui s'accaparent. C'est un reptile, lui, il ne réfléchit pas. Il ne se rend même pas compte qu'on l'écrase avec notre chaussure, même si on veut la vipère. Au contraire de ce que tout le monde peut croire, il ne va pas se jeter sur nous. Mais que c'est un moment agressif. Il faut savoir, il faut connaître les saisons, connaître les espèces. Après, en période de brame du cerf, on évite de circuler avec ses bâtons de marche. Parce qu'en tapant avec ses bâtons de marche sur les troncs d'arbres, on fait comme si c'était un cerf qui provoque un autre cerf. Et donc, comme le cerf qui est en période de brame peut estimer qu'il y a un rival qui arrive, il va peut-être venir vers vous. Et s'il est à la période de du must de son rut, là, il est capable de vous charger. Et on l'a vu, ça a fait la une des journaux, que des poneys, des vaches, des génisses ont été perforés par un cerf en période de brame. Et pour les hommes, c'est pareil. Donc, il y a des périodes et il y a des espèces qu'il faut faire attention à certaines, à la période où elles sont les plus agressives, pour une bonne raison souvent, pour la période de reproduction, pour la période de marquage de territoire, et puis pour ne pas nous surprendre. On pourrait parler de ce truc, j'ai pas de scrupule à parler de cette personne qui a été tuée par un ours dans le nord de l'Italie. C'est un jogger qui courait avec des écouteurs, hein, et qui a surpris une ours avec ses oursons. Quelqu'un qui court vers des oursons pour une mère, c'est une agression. Donc, voilà, c'est pas de chance. Je suis désolé pour la personne, mais il y a plein de choses. Il y a 22 morts par les frelons en France chaque année. Hein. Donc, on n'en fait pas tout un plat plus que ça.
Donc, hein. Il faut se renseigner, en fait.
Il faut se renseigner. Et justement, c'est là où l'éducation est importante. Je suis pas né dedans, moi. Mmh. Je suis devenu parce que j'étais passionné de faune. Donc, il faut connaître la nature. Mmh. Et il faut l'appréhender. Il faut surtout pas en avoir peur, parce qu'il n'y a pas de raison d'en avoir peur. Il faut la connaître pour la contourner à certains moments ou savoir quoi faire. Hein. Il y a plein de choses, mais... Pour revenir au loup, c'est vraiment pas le meilleur exemple pour dire n'allez pas dans la forêt, il y a du loup. Le loup a un odorat super développé. La première chose qu'il va faire quand il va trouver une odeur, sentir une odeur d'homme, il va s'en éloigner le plus loin possible. Voilà. Nous, à chaque fois que je l'ai vu une trentaine de fois, c'était surtout un hasard ou le fait qu'on soit enfermé dans une ou très loin avec des jumelles. Voilà.
Jean-Marie Wary, merci beaucoup. Voilà. D'avoir répondu à nos questions. Et puis, les recommandations, vous pouvez peut-être les trouver sur le site de votre association.
Ou nous appeler quand on encadre un groupe.
Parce que vous n'êtes pas loin.
Mais en tout cas, le bruit, c'est une des bonnes solutions, mais ce n'est pas très agréable. Quand on va dans la nature, on n'a pas envie forcément de faire du bruit. Après, c'est de rester sur les sentiers. Les animaux ont pris des habitudes. Hein. Regardez l'exemple du Kenya. Les gens sont dans les voitures, ils se baladent au milieu des fauves, de troupeaux de buffles qui font 800 kilos chacun. Donc, il y a des habitudes, les animaux prennent des habitudes. Moi, j'ai pisté le lynx en ex-Yougoslavie, Slovénie maintenant. Le lynx, il couchait au-dessus d'un camping. Il avait pris ses marques, il était au-dessus d'un camping. Il ne venait jamais dans le camping. Et tant qu'on ne viole pas son territoire, parce que c'est ça aussi, il va bien falloir partager. Mmh. Donc, on reste sur les chemins. Et puis, quand on sort des chemins pour X raisons, eh bien, on fait attention. Mmh. Hein. Et puis, on est observateur, on est connaisseur. Et puis après, surtout, c'est si on arrive devant une grosse bête, je vais parler pour tous les voyages que l'on fait ici et ailleurs, hein, dans le monde, une grosse bête, on recule en ayant les yeux qui regardent l'espèce, hein, et on recule doucement. Après, on ne sera pas... Il y a de plus en plus de touristes qui vont partout. Avec ce réchauffement du climat, je vais donner un autre exemple. Sur les Spitzbergs, là, il y a des gens qui, de temps en temps, sont taquinés par les ours polaires. Bah oui, les ours polaires ne trouvent plus de nourriture. Et d'un seul coup, il y a des campements de touristes qui arrivent à la belle saison avec des odeurs de saucisson. Bah forcément, ça va créer quelques conflits. Après, à nous de savoir faire avec. Il y a les bombes à poivre, il y a le fusil avec une balle, il y a de crier, il y a plein d'espèces que simplement l'odeur ou crier, ça les fait partir. Moi, j'ai bien plus peur, j'ai bien été plus agressé de bêtes de petit volume, comme les serpents ou les insectes. Voilà.
Eh ben, merci beaucoup, Jean-Marie. À bientôt.
Merci.